déterminé. Je vous avais prévenu, Laura, en habitude, on ne fait pas de présentation, parce que c'est toujours un peu savonnette, les présentations. On oublie quelque chose, on oublie. Alors, on préfère vous laisser la responsabilité de vous présenter. Voilà, comme ça, si vous oubliez quelque chose, bien que je vous pardonnerai. En général, on se donne 30-40 minutes, voilà, de témoignage, et ensuite, on laisse un peu de temps. Voilà, c'est vous, si ça dure 20 minutes, c'est 20 minutes, si ça dure 40 minutes, 45 minutes, c'est 45 minutes. Mais ce qui est bien, c'est de prévoir un tout petit temps avant qu'on termine, impérativement à 14h pour les raisons professionnelles, qu'on laisse un petit peu de temps pour un échange, un dialogue, des questions, des réponses. D'accord ? Merci beaucoup. On vous filme. Hein.
Vous m'entendez bien ?
Bien.
Donc, je suis Laura, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Carolier, merci au Midi Chayot de m'avoir accueilli pour parler de ce sujet qui est à la fois sensible, mais tellement nécessaire d'en parler. Donc, merci beaucoup et merci d'être là. Je suis là pour vous parler d'un cadeau. Un cadeau que la vie m'a fait, un cadeau mal emballé. Je commencerai peut-être en citant un grand philosophe de notre époque, Forrest Gump, qui a dit que la vie c'était comme une boîte de chocolat. On ne savait jamais sur quoi on allait tomber. Et je dois dire que c'est vrai. On se raconte beaucoup, moi en tout cas, qu'on contrôle, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait ce qui va nous arriver, et qu'on a la maîtrise, mais en réalité, on ne maîtrise pas toujours ce qui nous arrive. Et parfois, on tombe sur le fameux chocolat, vous savez, à la liqueur. Et le mien, il s'est appelé burn-out, ou épuisement professionnel. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet que beaucoup de gens connaissent. On a entendu ce mot, on a entendu parler. Certains disent même que c'est galvaudé, tellement c'est employé à toutes les sauces. Mais en réalité, derrière ce mot, il y a une réalité, il y a un vécu qui, je crois, lui, reste assez tabou. Et du coup, c'est important d'en parler. Voilà. Je vous en parle parce que, comme beaucoup de choses dans la vie, quand on ne l'a pas vécu, c'est difficile à comprendre. Et je ne vous souhaite vraiment pas d'avoir à le vivre. En revanche, je vous souhaite de le comprendre. Parce que la dépression, aujourd'hui, c'est la deuxième cause de maladie et d'arrêt de travail en 2020. Ce qui veut dire que, malheureusement, statistiquement, nous tous, un de nos proches, un de nos collègues, un de nos amis, sera un jour touché. Donc voilà, c'est important de comprendre. Je vous partage ici mon vécu, les choses que j'en ai apprises. C'est pas des leçons, parce que je n'ai pas de leçons à donner, mais simplement un partage. Voilà. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une collision, je dirais, entre une petite fille de plus grande qui avait très à cœur d'être parfaite pour tout réussir et un contexte professionnel qui est devenu difficile. Qui je suis une jeune femme de 33 ans. Je viens du sud de la France et j'ai grandi dans une famille très démente. Et j'ai décidé, dans un milieu où on ne savait pas trop ce que c'était, de faire une prépa et une école de commerce. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière en marketing, sur les chapeaux de roue, je dirais. Pendant 10 ans, j'ai travaillé plutôt dans des grands groupes. Ça se passait très bien. Et cette décennie-là, la décennie de ma vingtaine, j'avais une énergie assez débordante, je peux dire. Je faisais plein de choses, je faisais plein de sport, j'avais plusieurs groupes d'amis. J'organisais un mariage génial, avec un homme génial. Et voilà, je ne m'y ai jamais. J'avais pas le temps, j'avais un agenda de ministre. laisse le micro. Et c'est vrai que voilà, je passais beaucoup de temps à courir. Mais j'avais un peu oublié de me demander après quoi je courais. Et cette histoire, elle a commencé en septembre 2019. Tout allait bien, a priori. Hein, je venais de rentrer de mauvaises noces, de super vacances en fait. Et je retournais au travail avec beaucoup d'envie en fait. Vraiment super motivée par la rentrée, et ça a été un petit peu la douche froide. Parce que le business n'allait pas très bien. Les gens étaient hyper stressés et en fait, je trouvais pas trop ma place dans cette rentrée 2019. Et j'avais une petite boule d'angoisse juste là. Mais elle venait, elle repartait. J'avais pas trop envie qu'elle soit là. Donc je l'ai ravagée. Puis j'ai retroussé les manches encore plus haut. Et voilà, j'ai passé cette rentrée. J'ai commencé à avoir des petits problèmes de sommeil. J'avais jamais eu ça. Je me réveillais la nuit. J'arrive pas trop à m'endormir. Alors j'ai fait ce que je crois qu'on fait tous quand on a passé une mauvaise nuit, le lendemain, j'ai essayé de me coucher tôt, faire un peu de sport, j'ai essayé de prendre les choses calmement, mais ça s'arrangeait pas trop. Et en octobre, ça s'est un peu accéléré. En fait, j'avais rendez-vous avec moi-même toutes les nuits, de 2h à 6h à peu près, dans mon salon. Impossible de me rendormir. Du coup, j'ai développé plein d'activités parallèles, une sorte de vie nocturne faite de puzzles de 1000 pièces, de beaucoup de pages d'écriture pour essayer de me libérer de cette angoisse qui m'empêchait de dormir. En fait, j'avais vraiment l'impression que je me réveillais et qu'il y avait une sorte de TGV de pensée qui me heurtait comme ça sur le côté et impossible de m'endormir. Donc, j'ai passé le mois d'octobre comme ça, à essayer de lâcher, bien sûr, ce qui se passait, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, donc je préférais qu'il ne se passe rien, en fait. À ce moment-là, j'ai vu un généraliste. Je suis fille de médecin, autant dire que quand il y a un problème, il y a une solution. Je suis allée faire des examens, des prises de sang. On a commencé à parler de problèmes hormonaux, peut-être de problèmes de thyroïde. Et je me suis surprise, pendant ce mois d'octobre, à rêver d'une maladie un peu grave, mais pas trop, qui se soignerait. En tout cas, quelqu'un qui me donnerait une solution. Et en fait, bon, officiellement, j'avais rien. En novembre, ça s'est accéléré encore. Je ne dormais toujours pas. Du coup, j'avais arrêté de prendre les transports. Le matin, je préférais passer les 45 minutes du trajet à pleurer en marchant pour évacuer. Je séchais mes larmes à l'entrée du bureau et je faisais comme si c'était pas arrivé. J'ai appelé une psychologue à ce moment-là pour la première fois de ma vie. Et j'ai dit que j'avais besoin d'aide. Et elle a dit qu'elle n'avait pas de place. Et là, j'ai complètement paniqué. Je lui ai dit, oula, mais vous ne comprenez pas en fait, c'est grave. Je ne sais pas quoi faire. Et donc elle m'a dit, peut-être mieux voir un médecin en fait, un psychiatre. Ça fait peur, un psychiatre, quand on va trop grand. Mais j'ai écouté, et donc du coup, à partir de là, j'ai commencé toutes les semaines à aller vider mon seau d'angoisse toutes les semaines chez le psychiatre, à lui parler voilà, de cette angoisse de tout le temps. À ce moment-là, personnellement, je ne faisais pas de lien avec le travail, parce que au travail comme ailleurs, j'avais l'impression que ma vie allait bien. Et à la fin du mois, il a dit les mots que j'avais jamais entendus à propos de moi, arrête de travail. Et j'ai dit bon, bien sûr. J'ai dit, vous ne comprenez pas, j'ai des choses à faire, moi j'ai peut-être des choses à faire. Puis j'ai une réputation aussi. J'ai une réputation de bosseuse, une réputation de fille sur qui on peut. Donc, vous n'y pensez pas, bien sûr. Et j'ai laissé faire, mais mon corps, mon cerveau, je ne sais pas qui des deux décide quand est-ce qu'on dort, mais en tout cas, l'un des deux, il n'avait pas envie de dormir. l'amour et j'ai réalisé quelque chose, c'est que j'aimais plus rien. J'aimais plus voir mes amis, j'aimais plus manger, j'aimais plus dormir, j'aimais plus sortir. Mais par contre, j'avais pas envie de mourir. Du coup, j'ai fini par dire oui. C'était lundi 17 décembre que j'ai dit oui pour l'arrêt de travail. Donc, quelques jours avant Noël. Et il s'est passé deux choses ce lundi 17 décembre. La première, c'est que j'ai dû envoyer ce papier. Donc, c'était un papier qui disait arrêt de travail, un mois, signé par un psychiatre. Autant vous dire, mon arrêt de mort dans ma tête. Et donc, j'ai envoyé cet arrêt de mort qui, pour moi, disait coucou, je suis folle, en fait, à mon employeur. Et vraiment, j'avais pas très envie d'envoyer ce papier. D'ailleurs, la réaction de mon corps s'est pas fait attendre. J'ai envoyé le papier et dans la foulée, j'ai déclenché une infection urinaire carabinée. Et ce soir-là, comme tous les soirs, en fait, je me suis couchée épuisée et je me suis dit, bon, ben, je vais m'endormir et puis me réveiller dans deux heures, comme d'habitude. Et ce soir-là, je me suis couchée et puis j'ai dormi 8 heures d'affilée. Comme si tout ça n'était jamais arrivé. Ensuite, j'ai passé un mois à redécouvrir ce que c'est de faire une vraie nuit. C'était génial. Mais au bout de l'arrêt de travail, comme une bonne élève, c'était écrit sur le papier, donc j'ai surtendu. Et en arrivant devant ma place, j'ai compris ce que mon corps savait déjà. C'est qu'en fait, s'asseoir à ce bureau et reprendre mes 3000 emails non lus, là où je les avais laissés, en fait, ça n'allait pas être possible. Du coup, j'ai vu le médecin du travail, j'ai expliqué, et il m'a dit que, en fait, j'avais rien à faire là. Et je le savais pas encore, peut-être heureusement, mais c'était le début de 6 mois d'arrêt de travail. Et du coup, j'ai eu une période particulière après, où j'ai fait deux constats. Le premier, c'est que, en fait, j'étais aussi responsable de ce qui m'arrivait. Il n'y avait pas que le fond qui péchait, il y avait la forme aussi. Cette façon de toujours faire les choses à 2000%, comme si ma vie en dépendait, en négligeant de prendre soin de quelque chose que j'ai toujours pris pour acquis, ma santé. Et j'ai senti qu'il fallait que je fasse les choses différemment, pas juste changer de travail, changer aussi ma façon d'être. Et l'autre chose dont j'ai pris conscience, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'autre, qui m'a dit que ce que j'avais fait, ça s'appelait un burn-out. Moi, pendant ce temps-là, je disais assez pudiquement que j'avais des problèmes de santé, parce qu'après tout, c'était vrai, j'avais des problèmes de santé. Et quelqu'un m'a dit ça, m'a dit, mais en fait, on t'a fait un burn-out. Et ça m'a choquée. Je te dis, non, pas moi, enfin. Et en même temps, ça m'a libérée. Parce que je me suis dit, bah oui, il a raison. Et j'ai commencé à lire des choses sur le sujet, à lire les statistiques qui sont assez effrayantes sur, malheureusement, le nombre de gens qui passent par là. Mais en face de ces statistiques, dans les articles de déco, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Des humains, comme vous, comme moi, normaux, quoi. Qui dirait, en fait, moi aussi, ça m'est arrivé. Et en fait, on peut s'en relever. C'est pas forcément si grave. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que la petite graine du projet que j'ai fait naître par la suite, elle s'est plantée. C'est que je me suis dit, si personne n'en parle, c'est peut-être parce qu'on est tous là à regarder les voisins et à se dire qu'il ne faut pas en parler. Mais moi, j'ai bien envie d'en parler, en fait. Voilà, ça, c'est l'histoire, ce qui s'est passé. Ce que je voudrais partager avec vous, peut-être, c'est ce que j'ai découvert pendant ces quelques mois. Je dirais que j'ai découvert 3 choses. La première, c'est que il est vraiment urgent d'en finir avec la route. la honte, c'est cette sensation hyper poisseuse qui m'a prise à la gorge tout de suite. Le premier truc que je me suis dit quand j'ai vu que j'allais pas bien, c'est qu'il faut cacher, il faut pas que les autres le sachent. Et c'est naturel, c'est instinctif de réagir comme ça. Et pour autant, quand je fais ça, quand je réagis comme ça, je fais une brique de plus dans le mur de la honte. Et moi, en tout cas, j'ai plus envie de mettre cette brique, de mettre de l'eau dans ce moulin. Parce que la honte, je le sais aujourd'hui, ça peut tuer en fait. Je vous l'ai pas dit, mais à un moment donné, j'avais tellement honte que je me suis demandé, sincèrement, qu'est-ce qui devrait décevrait le plus mon entourage? Que je leur dise que j'y arrivais plus ou que je disparaisse? Il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait « ça va, t'es pas Bill Gates en fait, t'as pas non plus un boulot de dingue, t'as un boulot normal et les autres ils y arrivent, donc t'as un problème en fait. » La honte elle peut tuer, mais en fait la honte, c'est rien, c'est une émotion, c'est pas l'émotion la plus agréable, mais c'est une émotion, c'est inoffensif. D'ailleurs, en en parlant là comme ça pour vous, c'est ça qu'on, enfin, collectivement, ce qu'on est en train de faire, c'est de la faire fondre comme un petit bloc de glace qu'on aurait mis au soleil. Parce que finalement, parler comme ça devant vous de ma vulnérabilité, c'est devenu ok pour moi. Pour deux raisons. D'abord parce que j'ai arrêté de confondre vulnérabilité et faiblesse. Et aussi parce que quelque part, j'espère qu'en osant parler de ma vulnérabilité, vous vous sentez autorisé à faire la même chose, à vous montrer parfois dans votre vie vulnérable, à déposer les armes. Parce qu'on n'est pas invincible, on est vachement mieux que ça, on est humain. La deuxième chose que j'ai appris sur ce chemin, c'est qu'on a tous une valeur intrinsèque. Ça, c'est mon médecin généraliste qui m'a dit. Alors, quand mon arrêt a été prolongé, j'étais complètement catastrophée, et il m'a dit, est-ce que vous savez que vous soyez au bureau en train de faire des choses incroyables, ou que vous soyez chez vous en train de boire un thé ou Netflix, vous êtes la même personne, et vous avez la même valeur. Et je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi quand je l'ai entendu la première fois, mais c'est à la fois évident et absolument inacceptable. Ah bon? Il ne faut pas faire des choses incroyables pour que les autres nous aiment et nous aiment bien. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps dans ma vie à faire. Moi, je faisais des études, je faisais des dîners, je faisais des présentations, je faisais beaucoup. Je n'avais pas trop pris le temps d'être. Juste être moi, découvrir ma valeur intérieure, unique, découvrir ce qui me plaît, ce qui me nourrit, ce qui me ressource, ce qui me fait plaisir. Le médecin, il a dit, faites des choses qui vous font plaisir. Ah, en fait, je savais plus ce qui me faisait plaisir. J'ai réalisé que j'avais passé tellement de temps à essayer de savoir ce qui fait plaisir aux autres que j'avais aucune idée de la réponse à ça. Est-ce que vous, vous savez ce qui vous nourrit, ce qui vous ressource? Est-ce qu'il y a de la place dans votre vie pour ça? La troisième chose que je voulais partager, c'est le fait qu'on a tous des moteurs dans la vie, des choses qui nous mettent en mouvement. Et que le besoin de reconnaissance, ça peut être un moteur, mais c'est un moteur un peu dangereux. J'ai réalisé à 30 ans passés que, telle une bonne élève, je faisais mon travail pour que mon manager soit content. Et d'ailleurs, je le faisais très bien. Je me donnais vraiment beaucoup de mal. Et en fait, quand on fait ça, quand on travaille juste pour la reconnaissance, on met dans les mains de quelqu'un d'autre son bien-être. Et ce quelqu'un d'autre, malheureusement, il a le pouvoir de nous enlever. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, quand j'ai commencé à me sentir pas très bien, à avoir une petite mine et à être un petit peu moins performante au travail, à faire des lapsus, à me tromper dans des emails, à oublier ce qu'on venait de me dire, tout ça parce que je ne dormais plus, eh bien, comment vous dire que mon manager était un petit peu moins content. Ça se passait un peu moins bien. Et ça m'a fait vraiment réaliser à quel point il y avait une absurdité dans ce que je vivais, à mettre autant d'énergie et d'effort dans quelque chose qui, en fait, me rendait pas du tout heureuse et qui ne faisait que satisfaire d'autres gens, qui d'ailleurs ne m'étaient plus satisfaits. Et pour ça, je trouve que le Covid a été assez cruel de vérité, parce que on était tous dans nos routines, on enchaînait les dîners du jeudi et les brunchs du dimanche, et ça permet un peu d'oublier que parfois peut-être on a mis sa vie sur les rails construits par d'autres qui vont, on ne sait pas où d'ailleurs. Et quand on se retrouve en tête à tête avec soi-même, comme on a tous un peu été cette dernière année, je trouve que c'est une bonne occasion de se demander où est-ce que j'ai envie qu'ils aillent, mes rails en fait. Moi aujourd'hui, je vais pas vous dire que j'ai trouvé ma place, la seule et unique, immuable, parce que je crois qu'elle n'existe pas. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'est un chemin différent qui me plaît beaucoup, vers l'accompagnement de ceux qui se posent les mêmes questions que celles que je me pose ici, ceux qui veulent changer leur vie, ceux qui changent de direction, ou tout simplement qui s'interrogent sur tout ça. Et ça me passionne. Voilà. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Moi, je sais beaucoup parler de moi, mais je voulais un peu vous parler de vous aussi. Vous qui avez peut-être des enfants, qui peut-être, comme moi aujourd'hui, êtes venus avec un enfant sur vous, c'est pratique, ou qui allez en avoir un jour. Je voudrais vous parler d'éducation. J'ai grandi dans les années 80 et j'ai manqué de rien, surtout pas d'amour. En revanche, je dois dire qu'on m'a jamais appris à mettre des mots sur ce que je ressentais, à parler de mes émotions, de mes peurs, de mes échecs. Et je pense que mon cerveau en a conclu que tout ça, c'était de la faiblesse, il n'y avait pas en parler. Et je réalise que derrière la guerrière qui pensait qu'il faut toujours tout réussir dans la vie pour être aimée, il y a cette toute petite Laura qui pense depuis toujours qu'en fait, on ne peut pas parler de ce qu'on ressent. Que quand on ne sait pas quel bon être, il vaut mieux ne pas en être et se montrer toujours au top. Je vous parle de ça parce qu'en tant qu'adulte, on a tous le pouvoir de changer ça, de transmettre aux générations à venir cette simple capacité à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sans honte, en toute liberté. Je voudrais aussi vous parler à vous qui avez peut-être des gens dans votre entourage qui traversent des périodes difficiles. Parce que l'épuisement professionnel, c'est une bombe. Et malheureusement, sa déflagration n'est pas de plein proche. Si vous êtes concerné et que vous ne savez pas quoi faire, en fait, c'est normal. On ne sait jamais trop quoi dire. C'est parfois difficile d'ailleurs de voir un proche en détresse et de ne pas savoir quoi dire. On a envie de trouver la solution, le conseil qui va changer la vie de l'autre. Malheureusement, vous ne pouvez pas trouver la solution pour quelqu'un d'autre. La solution, elle est en lui, en elle, et il n'y a que lui qui va la trouver. En revanche, bonne nouvelle. Quand on se confie sur des choses comme ça, on n'a besoin que de deux choses. D'oreilles et de bras. Des oreilles pour entendre, des bras pour accueillir. Entendre et accueillir ce que l'autre vous partage. Parce que si vous saviez comme ça l'écoute, de le partager quand il le fait. Entendre que oui, on peut avoir 30 ans, une jolie vie sur le papier, des amis, un mari, un travail, et être rempli de désespoir. Entendre que la santé mentale, comme la santé physique d'ailleurs, les problèmes de santé mentale ne choisissent pas les gens en fonction de leur âge ou de leur niveau de revenu. Ça peut toucher tout le monde. Et quand je dis entendre, c'est pas forcément comprendre. Je sais que c'est difficile à comprendre quand on n'a pas vécu. Mais juste accueillir. Avant qu'il y ait peut-être proche de quelqu'un qui vit des épreuves comme celle-ci, je vous souhaite beaucoup de courage et de bienveillance. Je vous en envoie énormément. Parce que je sais que c'est pas facile. Et vous aussi, vous avez le droit de demander de l'aide autour de vous. Et je voudrais enfin m'adresser à vous, qui vous êtes peut-être un peu reconnus dans ce que j'ai partagé. Vous qui passez peut-être des mauvaises nuits, qui êtes peut-être très irritable en ce moment, peut-être que vous avez mal au dos, peut-être que ça ne va pas trop fort, peut-être que vous avez peur que tout ça vous arrive. Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas tout seul déjà. Et vous partager trois petites choses pour conclure. La première, c'est que la seule personne, vraiment la seule, avec qui vous allez passer toute votre vie, je vous garantis, c'est vous. Alors, prenez soin de vous. Vous voyez l'histoire du masque à oxygène dans la vie, qu'il faut se mettre à soi-même à pouvoir aider les autres. C'est pas de l'égoïsme en fait, c'est de la sécurité. Si on n'a pas appris à être bien avec soi-même et à s'aimer, on peut tout simplement pas donner ça aux autres. Donc commencez par vous. La deuxième chose, c'est soyez indulgent avec vous-même. Si votre vie d'aujourd'hui n'est pas exactement conforme à vos attentes, à vos rêves, c'est long, ça prend du temps. Le chemin vers soi, c'est un très bon chemin, je crois même que ça dure toute la vie. La bonne nouvelle, c'est que ça n'est constitué que de petits pas et que le premier, on peut le faire dès aujourd'hui. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est de ne pas m'écouter. De ne pas m'écouter moi. De ne pas écouter vos parents, vos enfants, vos amis. De pas écouter vos collègues. De pas écouter les pubs. De pas écouter les réseaux sociaux. De vous écouter vous. D'écouter votre corps. D'écouter votre cœur. Parce que la réponse, elle est à l'intérieur. Thank you. Pour autant, j'ai pas vécu ce que tu décris. J'ai la chance aujourd'hui que mes parents, mon mari, ma famille et mes amis, en tout cas proches, aient compris ce que j'ai traversé et me soutiennent. Je pense qu'il y a des gens du second cercle qui pensent que j'ai complètement craqué et que c'est la première chose qui m'arrive, mais je suis pas au courant. En tout cas, oui, j'ai fait le deuil de mon travail en CDI, j'ai fait le deuil d'une grossesse autrement qu'au chômage, j'ai fait le deuil de pas mal de petits trucs qui n'étaient pas dans mon plan. Mais c'est ok en fait, quand on se trouve soi, c'est ok de dire au revoir, je pense, à certaines choses.
Est-ce que vous voulez vous approcher pour qu'on puisse bien répondre à la question, si ça vous dérange pas?
Comment ça s'est passé avec votre employeur après les 6 mois? Comment ça s'est passé avec votre employeur après les 6 mois? Vous l'avez quitté? Vous avez eu une rupture conventionnelle de contrat? Ou ils ont reconnu qu'ils étaient responsables du burn-out parce qu'ils sont censés garantir la sécurité des personnes qui travaillent?
Oui, comme je le partageais, j'ai une vision qui est la mienne sur ce sujet, qui est qu'on est toujours en co-responsabilité des choses qui nous arrivent. Je sais que pour certains, c'est culpabilisant d'entendre ça et c'est vraiment pas mon but. Mais moi, je trouve au contraire que c'est libérateur de savoir qu'on n'est pas juste un pion qui a subi. Et je ne parle pas des cas de harcèlement ou autres qui n'ont pas été ce que j'ai vécu. Moi, ce que j'ai vécu, c'est une charge de travail pas bien dosée, un manager pas bienveillant, des RH pas très attentifs, et une personne au centre, moi, pas trop capable de dire stop. Tout ça, c'est un cocktail explosif qui a eu des conséquences. Donc oui, ils ont reconnu leur responsabilité en prenant aussi conscience de l'ampleur des dégâts, un peu a posteriori. Parce que comme j'avais quand même beaucoup caché ce qui m'arrivait, ils n'avaient pas forcément conscience. Mais du coup, j'ai fait le choix de la transparence vis-à-vis de ça, et donc je leur ai expliqué ce qui était devenu ma vie. Ma vie, concrètement, c'était de passer mes journées dans mon canapé. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais de prendre des antidépresseurs alors que je n'avais jamais pris un médicament de ma vie. Et de me retrouver à 30 ans alors que je voulais construire une vie de famille, dans l'impossibilité de faire ça, sous médicament, sans savoir pour combien de temps. Et tout ça, je l'ai partagé avec mon employeur pour qu'il se rende compte en fait, de ce que moi je perdais dans l'affaire. Et pour le coup, autant je pense qu'ils n'ont pas été top dans la façon de prendre conscience du problème. Je pense que c'est comme à beaucoup d'entreprises, pas toujours par mauvaise volonté, mais aussi parce qu'on ne sait pas comment gérer ce genre de situation. Que les managers, ça reste des humains qui ne savent pas toujours non plus ce qu'il faut faire. Autant après, ils ont été top. J'ai dit que moi, je voulais partir et ils m'ont permis de partir. Et du coup, aujourd'hui, de pouvoir toucher le chômage, ce qui est effectivement un soulagement aussi de ne pas avoir, même si le chômage, c'est le chômage, mais financièrement, c'est plus confortable que d'avoir rien du tout.
Et vous n'avez jamais envisagé de retourner au travail, mais avec un médecin thérapeutique, ça c'était impossible?
Je ne sais pas si c'était impossible, je pense que plutôt que ce n'était pas mon choix. C'est pour ça que ce projet, je l'ai appelé un cadeau mal emballé, parce qu'au fond, pour moi, c'est un cadeau de découvrir. En fait, je ne suis peut-être pas destinée à vendre des yaourts ou des shampoings pour les 35 prochaines années. Personnellement, je l'ai pris comme une bonne nouvelle. Et du coup, je n'avais pas spécialement envie d'envisager ces solutions-là, parce que ça m'a révélé un peu brutalement que j'aspirais à autre chose. Mais il y a des choses comme ça qui existent, et tant mieux.
Pardon, je continue, mais pour vous reconstruire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait du sport, vous avez fait suivi des choses comme des thérapies, faire la méditation, est-ce que vous avez trouvé d'autres choses que des médicaments pour aider à vous en sortir?
Oui, j'ai fait plein de choses. J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai fait toutes sortes de pratiques. J'ai pas trouvé la solution miracle, j'ai pas de conseils particuliers à donner là-dessus. profiter de cette période pour se mettre à l'écoute de ce qu'on a vraiment besoin. C'est plus compliqué à dire qu'à faire. Et d'essayer de suivre ce petit film-là. Effectivement, je crois beaucoup à la non. culpabilisation sur le sujet, mais plutôt à la responsabilisation. L'entreprise n'est pas forcément coupable de ce qu'on vit, en revanche, elle est responsable de notre bien-être physique et mental. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de managers qui sont très démunis face au mal-être, qui eux-mêmes se sentent d'ailleurs peut-être pas très bien en réalité, et qui ne savent pas quoi faire. Et du coup, je crois beaucoup à l'éducation là-dessus, en fait, à la transmission d'infos pour qu'ils aient les cartes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous bien les utiliser, mais j'ai quand même foi que quand ils les auront, déjà, il y aura des choses qui vont avancer, des discussions qui vont se débloquer. Et c'est quelque chose qui me tient très à cœur et que je crois voir en train de se développer aujourd'hui.
Est-ce que le médecin du travail a été saisi de votre situation? Est-ce qu'il vous apporte une aide?
C'est un bon point, parce que je ne savais pas qu'il y avait un médecin du travail avant tout ça. Et on ne m'a pas tellement suggéré d'aller voir. Il y avait même un psychologue du travail, et dans les deux cas, je n'étais pas tout à fait informée. Là encore, j'aurais pu chercher moi-même aussi, mais on ne me l'a pas dit. Ça a été le cas après coup. En fait, quand je suis revenue au travail, on m'a suggéré d'avoir une visite de reprise avec le médecin du travail, qui là a été très bien et m'a vraiment dit vous n'avez rien à faire ici. Je pense que ce que vous me racontez là doit faire l'objet d'un arrêt de travail plus long. Il y a des procédures, normalement il y a des comités santé où le cas de ces salariés-là sont évoqués. De ce que j'ai compris, je suis un petit peu passée entre les mailles du filet pour une raison générale. Moi, en tout cas, à terme, j'ai choisi de faire comme mes copains. tout ça, en fait, ça donne malheureusement des trentenaires ou des quarantenaires vraiment perdus, qui n'ont plus de joie et plus de sens dans ce qu'ils font. Et on est dans un monde qui change, qui a besoin de changer. Et je crois qu'il a besoin de gens heureux, qui trouvent du sens et de la joie dans ce qu'ils font de leur journée. Et c'est quelque chose qui me tient très à cœur à la rencontre justement de ces gens qui ont 10 ans de moins, qui sont au point de départ de leur vie professionnelle, et d'aller tout simplement leur donner les clés pour déterminer ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui leur donne envie de se dépasser au-delà d'un bon nom sur le CV ou un beau salaire de sortie d'école.
Je dis pas qu'il y aura
plus jamais de quoi que ce soit. J'ai conscience qu'en fait, je ne maîtrise pas tout. Ce que j'envisage en tout cas, c'est de ne plus jamais faire des choses qui me rendent pas fière et heureuse. Mais ça pourra prendre la forme du salariat un jour, peut-être. Je sais pas.
Oui, j'avais une question. Mais du coup, j'ai une autre question autour du sens, la question du sens que vous avez mentionné. Je ne sais pas quel sens vous mettiez dans votre travail, au-delà de la réussite, dans vos fonctions, la satisfaction qui était celle de vos managers que vous avez mentionné au début. Mais est-ce qu'une façon de se protéger un peu, c'est pas de s'assurer toujours justement que ce à quoi on contribue professionnellement est un projet qui fait sens pour soi profondément, enfin, qui fait profondément écho à nos convictions?
Oui, c'est sûr. Après, je constate qu'on est nombreux à tomber dans le panneau. Donc je pense qu'en fait, c'est pas si simple. Mais oui, clairement, la question du sens, elle est essentielle. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tous qu'on bosse pour Greenpeace, en fait. Ça veut juste dire que, encore une fois, on revient à soi. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie, à la fois au travail ou ailleurs, d'ailleurs. Donc je pense que c'est à la fois évident et super difficile de réussir à 24 ans à se dire est-ce que ce que je fais a du sens pour moi, en plus de payer mon loyer voilà, parce que ça reste des choses qui sont pas optionnelles, on va dire. Mais là encore, peut-être qu'il faut mettre du « et » non pas du tout.
Est-ce que cette période difficile que vous avez traversée, vous a fait perdre l'estime de vous, la confiance en vous et l'amour de vous?
Est-ce que ça
vous a fait perdre cette confiance, cette estime de vous et cet amour? Et comment vous l'avez retravaillé?
En fait, paradoxalement, je crois que je n'en avais pas beaucoup avant. Je croyais que j'en avais, mais je n'en avais pas beaucoup. J'étais fière de ce que je faisais. Je n'étais pas très fière de ce que j'ai été. Je ne m'étais jamais posé la question, en fait. Oui, ça m'a un peu déstabilisé parce que je pensais vraiment très très sincèrement que ça ne pouvait pas m'arriver, que ça pouvait arriver à d'autres gens, mais pas moi. C'est pour ça que j'ai autant à cœur de me raconter. Parce qu'en fait, si, c'est totalement possible que ça arrive à chacun d'entre nous. Et oui, ça m'a déstabilisé. Après, je dirais pas que je m'aime moins qu'avant. J'essaie même plutôt de m'aimer plus qu'avant.
Une dernière question, peut-être? Oui, allez-y.
Moi, j'ai une question par rapport au rapport aux religieux. Est-ce qu'il y a des variations dans votre foi, dans votre pratique? Enfin, si vous êtes croyant, bien sûr. Mais je pose la question parce qu'on est dans le crypte. Et je voulais savoir, justement, parce que les croyants peuvent justement trouver refuge en Dieu, en le Christ. Est-ce que ça a été votre cas aussi?
J'ai pas été aidée par ce pilier là. C'est pas un pilier central dans ma vie, en toute honnêteté. Et je sais que ça l'est pour des gens, mais pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai plutôt puisé mes forces en moi et en mon entourage très très proche, qui était mon premier âge, je tiens.
Bon, j'ai dit pas ça pour moi, mais vous savez qu'il y a des prêtres, des religieux, des religieuses qui font des bonnes. Non, mais je pense que d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup, Laura. De se relever. Merci de votre attention. Nous avons un rendez-vous à la rentrée prochaine. Et je parle sous le contrôle de Marie et Christine. C'est le 5 octobre. Le vendredi 1er octobre pour la Sainte-Thérèse de l'étranger. Ce sera Christiane Lambert, qui est donc, comme vous le savez, la présidente de la FNSEA, qui viendra nous parler des questions agricoles, écologie, agriculture, etc. Donc 1er octobre à 13h au même endroit. Bonne après-midi à tous.